Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour à tous, shalom aleichem. Aujourd'hui, Astrid n'est pas là, donc je vais vous présenter toute seule le livre sur Odessa. Donc, c'est vraiment un livre extrêmement riche et très, très complet. Donc, c'est pour ça que nous y consacrons plusieurs émissions. Donc, ce livre s'appelle « Histoire, mémoire et représentation des Juifs d'Odessa », sous titre « Un vieux rêve intime ». Écrit par Isabelle Nemirovski et aux éditions Honoré Champion. Donc, nous avons présenté les fois précédentes la création d'Odessa et puis aussi son moment, son âge d'or, voilà, avec les grands écrivains yiddish, en particulier les plus grands Sholom Aleichem et puis Mendel et Mocher Sforim. Et puis là, nous entrons dans une période beaucoup plus sombre, qui va être vraiment le déclin d'Odessa en tant que ville, mais aussi le déclin d'Odessa et surtout le déclin d'Odessa en tant que ville juive. Donc, il y a eu déjà un pogrom en 1870, mais c'est en 1905, qu'il y a vraiment un grand pogrom à Odessa, qui malheureusement ne sera pas le dernier. Donc, 1905, c'est la première révolution russe, enfin c'est la révolution ratée. C'est un moment où les gens ne supportent plus l'oppression tsariste, où ils veulent vraiment des libertés individuelles. Il y a beaucoup de mouvements de grève, il y a vraiment une ébullition dans le pays. Même pas tellement à Odessa, mais simplement Odessa connaît l'épisode du cuirassé Potemkin, qui va devenir célèbre grâce au film d'Eisenstein, qui est de 1924, donc bien plus tard. Il n'est pas clair, Isabelle Nemirovski a essayé vraiment de reconstituer, si on peut dire, vraiment ce qui s'est vraiment passé à Odessa ce jour-là. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas très clair et qu'en tout cas, le fameux escalier là, qui descend vers la mer et où le landau va courir, va tomber, ça ne s'est pas du tout passé là. Ça, c'est sûr que cet escalier n'avait absolument rien à voir dans la révolte. Mais c'est ça qui est devenu célèbre, comme quoi l'art est plus fort que la réalité. Ceci dit, ce mouvement révolutionnaire va se donner des pogroms, un grand pogrom à Odessa, dans la mesure où les Juifs sont à la fois considérés comme des révolutionnaires et aussi comme des bourgeois, comme des capitalistes. Mais en fait, c'est surtout le mouvement anti-révolutionnaire qui va les attaquer. Et donc, il y aura des morts, des blessés, beaucoup de maisons saccagées, beaucoup de magasins saccagés. Et le tsar, donc Nicolas II, va écrire à sa mère que c'est très bien qu'on ait attaqué les Juifs qui sont les responsables révolutionnaires de tout ce qui se passe en Russie. Bon, ceci dit, il y avait effectivement des Juifs dans le mouvement révolutionnaire, mais pas tellement à Odessa. À Odessa, c'était plutôt des commerçants ou alors des intellectuels, mais pas tellement des révolutionnaires. Mais enfin, ils ont quand même eu cette étiquette. Voilà, donc après ce grand pogrom, il va y avoir une émigration massive qui avait déjà commencé avant, mais qui va s'accentuer. Énormément de Juifs quittent Odessa. Et donc Isabelle Nemirovski va consacrer tout un chapitre finalement aux exilés d'Odessa et aux endroits où ils s'installent, en particulier aux États-Unis, New Odessa, la nouvelle Odessa. Ils vont aussi créer des colonies agricoles qui vont être très actives, mais qui vont avoir un sort assez court. Alors, ceci fait bien sûr penser aux colonies agricoles d'Argentine, à peu près de la même époque, qui elles aussi vont avoir un sort assez court, mais qui a quand même été important dans l'histoire juive. Voilà, donc Il y a ça, il y a aussi, Isabelle Niemirovski dit aussi que Tel Aviv, finalement, ressemble un peu à Odessa, en tout cas au début. Voilà, elle essaye de trouver comme ça les différents endroits où on peut dire que les gens d'Odessa ont recréé un petit peu leur ambiance. En tout cas, ceux qui restent vont être victimes là, des nouveaux pogroms. Alors ça, c'est ceux pendant la guerre civile. Donc la vraie révolution russe, si on peut dire la révolution d'octobre, éclate en 1917. Il y a des contre-révolutionnaires, en particulier les armées ukrainiennes menées par Petlura. Alors, cet épisode est devenu célèbre, en tout cas dans le milieu yiddish, puisque ces grands pogroms d'Ukraine vont faire, on compte à peu près 100 000 victimes, juives bien sûr, et il y aura donc plusieurs années après un juif d'origine ukrainienne qui s'appelle Schwarzbart va assassiner Petlura. Les deux vivant à l'époque à Paris. Donc ça a donné toutes sortes d'écrits, ce Schwarzbart est devenu célèbre. Ça, ce sont les grands pogroms d'Ukraine de la guerre civile qui ne touchent pas tellement Odessa. Finalement, Odessa est assez protégée de ces pogroms. Disons, ce n'est pas là que c'est qu'il y a le plus de morts. Donc, Odessa continue. Alors là, on a le régime soviétique. Et celui qui décrit tout cela, c'est l'écrivain russe, l'écrivain qui écrit en russe, juif russe, Isaac Babel, qui décrit en particulier la pègre d'Odessa, que Isabelle Niemirovski cite à de nombreuses reprises. Et également, dans cette période-là, donc nous sommes entre les deux guerres, il va y avoir un écrivain qui commence à monter, c'est Israël Yoshua Zinger, donc qui est le frère aîné du très célèbre Isaac Bashevis, mais qui est également un écrivain important, qui lui va écrire en particulier une série de nouvelles qui s'appelle « Au bord de la mer Noire ». Qu'a traduit Monique Charbonnel et que j'avais aussi présenté lors d'une émission. Donc là, il montre le sort de ces Juifs d'Odessa qui vont être entraînés dans la révolution, devenir parfois des chefs d'armée. Le plus célèbre étant Trotsky, qui lui-même a aussi vécu à Odessa et qui va devenir, comme on sait, le grand dirigeant, le grand général de l'armée russe soviétique, bien sûr. Voilà, donc c'est Israël Yoshua qui décrit tout cela avant de partir lui-même aux États-Unis. Il est parti en 1933, je crois, et il a demandé à son frère de le rejoindre en 1935. Voilà, donc ça, c'est toute la période qui s'étend entre les deux guerres. Et nous allons interrompre pour écouter une chanson. C'est une chanson qui exprime toute l'affection que les Juifs, les Juifs en particulier, mais les habitants d'Odessa ont pour Odessa. Alors, Odessa, elle s'appelle Mama, c'est-à-dire notre maman, bien sûr. Et donc, c'est une chanson très célèbre, Odessa Mama, chantée par Aaron Lebedev.
In der Scheiner Stotaden, o die Welt gar nicht gesehen, in der Weisnitz im Progress. Wo's mir bin, in wo's Paris, bloß ich weiß ich kein Vergleich, nur adens, o dort nicht, a gar nicht. So gibt's dort in der Traktier, der Leib mir nach Bier, die verbeißen der Zieh, a frisches Kombri, Baschmala im Balik, in zu dem es a schlick, mit a Gidleis Wein, was kann besser noch sein.
Ay, adesso mamma, bismettaia le conchie. Ay, adesso mamma, volte ben clopi. Ay, adesso mamma, perché mi parli a super. Ay, adesso mamma, il ben clopi di sper. Dai ne gassi tretuar, dai ne presti glette scene. Di caffè in di boulevard, da spargesso in che me ne. Di charmante, di ciccante, di dentro. Di hotel, di mantel, ligumi, no, yes, in tam. Oi, adesso, mamma, dispettai e di bon shit. Oi, adesso, mamma, di baldi, ben, no, dir. Oi, adesso, mamma, il vecchio mi parli, super. Oi, adesso, mamma, il vecchio mi parli, super. Ai, da spargesso in che me ne. Ai, di voltir, di voltir, di voltir. Attividum, stibidibidam, stibidim, stibidam, stibidibidibida. Attividam, stibidibidibidam, attividim, bamba. Ai, adesso, adesso, mano, visto scelta panorama. Di gerringer, ho di star di scel. Di scelzare, di restaurare, hai cadesto di limane. Per visto, si, si, vuore un fin di miel. Adesso, adesso, il vento
Voilà donc Odessa Mama, chantée par Aaron Lebedev, qui exprime toute l'affection que les Juifs avaient pour leur ville. Mais là, nous entrons quand même dans une période extrêmement triste, hein, où les catastrophes vont vraiment s'enchaîner. Donc, après la révolution russe, Trotsky, qui effectivement a passé une partie de sa vie à Odessa, va être mis de côté par Staline avant d'être assassiné en 1940. Et donc, c'est vraiment la terreur stalinienne qui s'installe avec des arrestations. Les gens sont poursuivis, ils sont arrêtés, ils sont envoyés au goulag où ils sont exécutés, et cela en masse et sans aucune raison, c'est-à-dire qu'il y a un côté tout à fait arbitraire. Alors ce sont les intellectuels qui sont visés, mais aussi les autres, y compris des médecins qui sont arrêtés sans que vraiment on sache pourquoi. Et cette ambiance extrêmement lourde et inquiétante est décrite en particulier dans le grand roman de Vassili Grossman qui s'appelle « Vie et destin », où lorsque se déclenche la guerre contre l'Allemagne, donc là on est en 1941, il décrit le soulagement des gens parce que l'ennemi est maintenant identifiable et c'est un ennemi extérieur, alors que jusque-là, les gens sont soumis à la pression, à une pression intérieure, c'est-à-dire ça peut être le voisin qui va vous dénoncer, le collègue de travail, les gens n'osent pas parler, les gens sont dans une peur absolument permanente. Et donc, c'est là aussi que Staline va déclencher ce qu'il va appeler la collectivisation et aussi l'élimination des koulaks, qui en fait va se traduire en Ukraine par une énorme famine qui a fait plusieurs millions de morts, 5 à 6 millions de morts, donc des gens qui meurent sur leur terre parce que tout est confisqué et on les laisse absolument pas cultiver, on les laisse pas, ou alors toute la culture, tout ce qu'ils cultivent est confisqué et même souvent exporté. Et donc c'est ce que les Ukrainiens ont appelé Holodomor, donc cette grande famine dont on n'a parlé que très tard, puisqu'il y a eu une chape de plomb sur cette période, et où les gens vraiment mouraient de faim, y compris à Odessa, alors que vraiment l'Ukraine est normalement une terre extrêmement riche et le grenier à blé. Voilà, donc ça c'est la période, ça c'est 34-35. Et ensuite, donc il y a beaucoup de brigands, d'exactions à ce moment-là. Les gens sont dans une incertitude totale. Et ensuite, il y a une période relativement plus calme où Odessa commence un peu à se relever de ses ruines. Isabelle Nemirovski décrit finalement cette population d'Odessa comme assez, comment dire, résiliente, qui veut toujours recommencer à chanter, à s'amuser, même si les circonstances sont tragiques et elles vont l'être de plus en plus. Voilà, donc ensuite, il y a le pacte germano-soviétique, donc qui fait que l'URSS est à l'abri pendant les premiers mois de la guerre, jusque 1941. Et donc, lorsque Hitler rompt le pacte germano-soviétique et où les armées allemandes envahissent l'URSS, d'abord, elles sont extrêmement fortes et tout à fait... Elles sont les vainqueurs, hein, les forces russes n'ont pas du tout l'énergie pour leur faire face. Et donc, Odessa va être rapidement rentrée sous la domination allemande. Mais en fait, les Allemands ne restent pas tellement longtemps. Ils vont donner la ville, enfin, ils vont laisser la ville aux Roumains. Et donc, ce sont les Roumains dirigés par un général qui s'appelle Antonescu qui vont s'emparer d'Odessa et là mener une extermination des Juifs extrêmement violente, extrêmement affreuse, par en particulier les pendaisons. Les gens sont fusillés, les gens sont torturés. C'est vraiment une période absolument épouvantable. Et on estime à entre 300 et 400 000 morts donc dans toute l'Ukraine, dont beaucoup de Juifs d'Odessa. Donc, c'est vraiment une période épouvantable qui ne sera pas reconnue par l'État roumain. L'État roumain a toujours dit que c'était la faute des nazis et qu'il n'était pour rien dans ce massacre. Et effectivement, dans les manuels scolaires, ça ne figurait pas. Ça a été que très tard, donc c'est en novembre 2004 que la Roumanie reconnaît officiellement sa responsabilité dans la Shoah, alors que jusque-là, ils ont dit qu'ils n'y étaient pour rien, jusqu'à ce qu'il y ait la publication d'un rapport d'une commission d'historiens chargée d'étudier la Shoah en Roumanie, dirigée par le prix Nobel Elie Wiesel. Et donc, selon cette source, entre 280 000 et 380 000 juifs roumains et ukrainiens sont exécutés sous le régime du maréchal Antonescu dans les territoires sous contrôle roumain. Et donc, c'est le président Ion Iliescu qui déclare en novembre 2004 « En acceptant les conclusions des historiens, j'assume l'entière responsabilité de l'État roumain pour les atrocités commises. Le tragique épisode roumain de la Shoah a été trop longtemps ignoré, aussi bien sous le régime communiste qu'après. » Et en 2006, Traian Băsescu, président de la Roumanie, de 2014, a posé à Bucarest la première pierre d'un mémorial de la Shoah et un musée de l'Holocauste et appelé les Roumains à assumer le passé de leur pays. Et cet épisode a enfin été intégré dans les manuels scolaires. Voilà, donc parce que effectivement Odessa n'était pas roumain et donc c'est pour ça que les Roumains ont pendant longtemps nié ce qui s'était passé. Voilà, donc... Pendant la guerre, Odessa fait de la résistance contre l'occupation, mais finalement, on est quand même dans une catastrophe et dans une extermination des Juifs, qui d'ailleurs persiste après la guerre. Hein. On sait que les écrivains qui étaient dans le comité antifasciste juif, qui a été fondé pendant la guerre, vont être tous arrêtés en 1948 et exécutés en 1952, donc encore sous la terreur stalinienne. Mais même après Staline, le judaïsme est opprimé, les écoles juives ferment, l'enseignement de l'hébreu est absolument interdit, donc tout ça va durer encore de nombreuses années. Voilà, donc là, on est vraiment dans une, oui, dans un déclin absolu de cette ville. Hein. Et voilà. Et donc, nous allons consacrer l'émission suivante la semaine prochaine à Odessa après 1991, puisque là, c'est la chute, enfin si on peut dire, oui, la chute du régime communiste, donc la perestroïska et l'indépendance de l'Ukraine, qu'est devenue Odessa depuis cette date, depuis que l'Ukraine est indépendante. Voilà, donc une petite annonce pour terminer l'émission. Le 20 décembre, donc c'est pendant Hanouka, notre chorale, Lomir Zingen, va chanter pour le Club 3. Donc ça se passe à la salle Léon Blum à partir de 14h30. Voilà, un petit programme autour de Hanouka et autour de la chanson yiddish en général. Voilà, ben je vous dis à la semaine prochaine. Merci Thomas. Shalom Aleichem.
Le yiddish, aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.